Ce soir, on regarde Esdras, Néhémie et Esther. La semaine dernière, on a regardé Daniel. La semaine avant, on a regardé Esaïe, Jérémie et Ézéchiel. Et donc, ces deux cours, c'était les grands prophètes. Et là, on revient sur trois livres qui sont classifiés comme étant des livres historiques. Dans notre étude en 24 heures, il nous restera encore les petits prophètes la semaine prochaine. Et puis on aura vu tout l'Ancien Testament. On aura un petit cours qui est, on pourrait dire, certains qui disent le fil rouge de la rédemption ou le salut à travers la Bible. Et c'est l'idée de regarder un petit peu le thème central de Jésus et du salut et de regarder un petit peu comment il est en filigrane dans toute la Bible. Et puis ensuite, on commence le Nouveau Testament. Ici, donc, on prend l'histoire du peuple d'Israël après l'exil à Babylone. Les livres historiques, on avait vu la division d'Israël en deux royaumes, le royaume du nord qui était appelé Israël et le royaume du sud qui était appelé Juda. Et on avait vu à la fin du livre de Chroniques qu'il y a déjà l'annonce du retour et le décret de la part du roi perse pour que les Israélites qui étaient à Babylone puissent retourner à Jérusalem pour commencer à se réinstaller dans leur pays. C'est intéressant de noter que dans cette histoire, on va nous dire dans Esdras et Néhémie qu'il y a environ 50 000 personnes en tout qui retournent. Et les historiens estiment que c'est 2 à 3 % seulement du peuple juif qui était à Babylone. Finalement, c'est vraiment petit groupe, quoi. On se disait, bon, ils sont nombreux à retourner, mais en fait, c'est un petit groupe, un petit reste. Et finalement, c'est ce que les prophètes, notamment Jérémie et Esaïe et Ézéchiel, avaient annoncé, c'est-à-dire qu'un reste reviendrait à Jérusalem. On a pas mal de choses encore historiques, pas mal de choses sur l'environnement du monde de l'époque. Et l'archéologie moderne a confirmé pas mal des dates et des personnages et des influences géopolitiques de l'époque. On avait parlé des royaumes d'Assyrie, puis de Babylone, puis les Perses, et puis viendront les Grecs après. Vous pouvez aller lire, et c'est des choses que vous pouvez étudier complètement à part de la Bible, regarder les choses historique par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette région à cette époque-là. Ces derniers temps, j'écoute un podcast d'histoire et je me suis aperçu, après avoir préparé ce cours, que le gars que je trouve passionnant avait un cours sur le royaume Médo-Perse, qui est le royaume dont on va parler aujourd'hui. Et je me suis dit, zut, j'aurais dû l'écouter avant de faire ce cours, mais j'ai pas eu le temps. Donc c'est des choses... Il y a plein de livres, il y a plein de choses que vous pouvez lire sur cette époque-là. C'est intéressant d'avoir ces sources et de voir les recoupements. Encore deux notes avant de nous plonger vraiment dans le contexte de nos textes. Mais c'est quand on avait étudié les chroniques, on avait dit que l'auteur était peut-être Esdras. Et que l'objectif c'était de donner au peuple qui revenait en terre promise une identité. C'est un peu comme vous dire si on prend toute la ville de Nice et on les installe en Allemagne pendant 70 ans, ils ont peut-être plus forcément une identité très niçoise, ils se rappellent peut-être plus les habitudes, les traditions, les choses qui faisaient Nice, ils savent peut-être plus ce que c'était la Soka, etc., etc. Et ils ont perdu ça, et donc Esdras, c'est un petit peu un objectif de leur réapprendre leur identité. Et donc les chroniques permettent de voir l'histoire du peuple. Et on va voir dans Esdras, dans Néhémie et aussi dans Esther, comment il y a un rappel de la loi, du temple, de leur identité en tant que peuple. Et ça, c'est un peu une ligne directrice qui permet de comprendre pourquoi ils ont écrit. Et puis, une dernière note que je trouvais aussi intéressante, auquel on réfléchit peut-être pas, mais que je m'étais posé et qui est très à propos aujourd'hui, parce que c'est le moment où ça devient très interchangeable, c'est l'idée qu'on parlait de Israël et des Juifs. Et d'où vient ce mot juif, finalement, pour désigner les Israélites. Et on pense que c'est l'idée entre... qu'Israélite, ça parlait de tout le peuple d'Israël, et qu'il y avait les royaumes du sud, qui étaient Juda, et que... Juifs désignaient en fait les Israélites du royaume du sud. C'était le Juda, et c'est un petit peu le fruit, on pourrait dire, du mot judaïte, qui a, avec les changements et les différences entre les langues, etc., est devenu juif en français. Mais on voit notamment dans Esdras et Néhémie que les deux mots, juif et israélite, que nous on connaît, sont utilisés de manière interchangeable à ce moment-là, alors qu'avant il y avait une signification différente. Le contexte historique, c'est le royaume donc Médo-Perse. C'est ceux qui ont défait les Babyloniens, dont on a parlé la semaine dernière avec Daniel. C'est un certain Cyrus le Grand, qui est celui qui établit vraiment l'empire Médo-Perse, qui va donner l'ordre pour que des Israélites retournent à Jérusalem, rebâtir le temple. Et ce Cyrus le Grand est un personnage intéressant historiquement, qui établit ce royaume qui est vraiment l'empire le plus grand que le monde ait connu à cette époque-là, qui a fait plein de choses intéressantes dans son royaume, dans la manière dont il faisait fonctionner le royaume. C'est toute une étude à part. Et l'idée, l'histoire voudrait que quand il conquiert Babylone, quand il rentre dans la ville, quelqu'un lui montre une prophétie qui avait été écrite par Ésaïe 150 ans avant, et cette prophétie parle d'un Cyrus, donc son nom carrément, et je peux vous le dire, c'est dans la fin d'Ésaïe 44 et le début d'Ésaïe 45, et il dit: je dis à propos de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté, il dira à Jérusalem, sois reconstruite, et au temple, que tes fondations soient posées. Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction, à Cyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser les nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai tes pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai les trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. La tradition voudrait qu'il ait été impressionné par cette prophétie qui lui a peut-être été montrée ou lue par Daniel lui-même à Babylone, et que ça aurait amené une certaine bienveillance de sa part envers les Juifs, et que c'est après ce moment-là, et ce qu'on voit au début du livre d'Esdras, qu'il a décidé de libérer les Juifs tant que peuple, qui leur rend les ustensiles, les choses qui avaient été volées dans le temple, les vases, les coupes, et qu'il donne l'ordre et leur donne la permission de retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple. Et cet épisode-là, quand il donne cet ordre-là, c'est indiqué à la fin des livres de Chroniques, Et c'est aussi au début du livre d'Esdras.
Est-ce qu'on a fait...
Ce quoi? Chronique?
Oui, c'est 45,
Esaïe. Esaïe.
Comment?
Esaïe.
Comment?
Esaïe.
Oui, Esaïe. On a fait. Vous avez déjà fait?
Oui, on l'a fait il y a 2 semaines.
On marche par l'ordre?
Non, pas exactement l'ordre biblique. Non. J'essaie de garder un ordre. Oui, je dois en avoir un.
Sinon, je te fais une
question. L'idée, c'est que les livres qui sont dans l'Ancien Testament, et notamment après les prophètes, sont superposés par rapport aux livres historiques dans l'histoire. Ils sont un peu en même temps, et donc ils les organisent. Il y a les livres historiques, puis après les prophètes, mais en fait, certains ont été écrits pendant des périodes, dans les livres historiques. Donc j'essaye de garder un ordre un peu plus chronologique que ce qui est dans la Bible.
C'est les années 45.
44-45. La fin de 44 et le début de 45. Oui. Alors il y a toute une liste de rois de Perse. On va voir il est question de Cyrus, d'Assuérus, d'Artaxerxès, de Darius. Il y a un Assuérus dans Esther. Et ça devient un petit peu compliqué, parfois un petit peu difficile à suivre pour nous. Mais une manière très simple de le décrire et de l'expliquer pour aider dans la compréhension, c'est l'idée que ces rois qui sont rois d'empires, qui ont des centaines de territoires avec des centaines de peuples, ils s'attribuent plein de titres. Par exemple, certains de ces rois vont même, en même temps, ils sont rois et empereurs de la Médie et de la Perse, mais ils ont conquis Égypte aussi, donc ils vont s'appeler Pharaon aussi. Et c'est un petit peu en fait comme les empereurs romains. Les empereurs romains, si vous pensez, ils s'appelaient Auguste, César, Dominus, Imperator, Pater Patriae, Pontifex Maximus, ils ont tous ces titres. Et si on doit écrire tous leurs titres, ça prend des pages et des pages parce qu'ils sont rois de tel peuple, et rois de ce peuple, et rois de ce peuple-là. Et donc c'est un petit peu ces titres qui se sont réutilisés pour chaque gars. Donc il y a Darius 1, Darius 2, Darius 3, Artaxerxès 1, Artaxerxès 2, 3, et qui ont des surnoms et qui sont connus dans l'histoire, comme il y a Cyrus le Grand, mais il y a un Cyrus 1er, Cyrus le Grand c'est Cyrus 2, donc, etc. Donc parfois ça complique un peu, mais de se rappeler, avec les empereurs romains, on connaît peut-être un peu plus, et comme c'est des noms latins où on comprend la signification impliquée, c'est un peu moins compliqué. Pour la chronologie, vers 536 avant Jésus-Christ, donc c'est la première vague de personnes qui reviennent à Jérusalem avec un personnage qui s'appelle Zorobabel, qui est le juif qui est un petit peu en charge de cette mission. Le temple est finalement reconstruit en 516 avant Jésus-Christ, ça prend 23 ans. Il y a des coupures à cause de position qu'on va voir, et des prophètes âgés et Zacharie vont les pousser à finir. L'histoire d'Esther, on pense que c'est entre 483 et 473 avant Jésus-Christ, c'est les dates, ça dépend un peu quel livre d'histoire vous regardez. En 456 avant Jésus-Christ, il y a une petite vague avec 2000 personnes environ qui viennent avec ce Esdras qu'on va voir, et un peu plus tard, en 445 avant Jésus-Christ, Néhémie va obtenir le droit de reconstruire Jérusalem, la ville à proprement parler, avec les murailles, les rues. Et la première mission, c'est vraiment de juste reconstruire le temple et de se réinstaller dans la région. Et ils ont le droit de reconstruire vraiment Jérusalem plus tard.
En 435,
je dis. Il disait 445. C'était la date dont on a parlé avec Daniel. C'est l'édit de reconstruction de Jérusalem en tant que ville avec les murs et les rues, l'infrastructure qui marque la date qui est considérée dans les prophéties dans Daniel 9.
C'est sous
Artaxerxès, oui. Qu'on va regarder après. Et on a dit que c'était juste une petite partie de la population juive qui retourne. Et il faut aussi se mettre à leur place pour avoir le contexte. Et l'idée, c'est l'idée que Babylone, la vie est un peu plus facile. C'est un peu la richesse. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Ils sont installés. Pour beaucoup, ils sont un peu embourgeoisés. Et le retour à Jérusalem, c'est un retour dans un territoire qui a été complètement détruit et laissé en friche, avec des tribus qui ont un petit peu repris des territoires aux alentours. Et donc la difficulté. Et donc l'idée, c'est pas très forcément enviable comme retour, de se dire on va aller là, on est bien à Babylone, ça va, j'ai mon salaire, je suis bien, et là on me demande d'aller m'installer dans un truc on sait pas trop où, on sait pas comment, dans quel état c'est. Mes grands-parents m'en ont parlé, mais moi j'ai jamais vu. Ça va, quoi. Et c'est un symbole un petit peu dans la Bible du monde et du confort matériel et de l'idée de la confiance en l'homme. Babylone, c'est cette idée de se reposer sur la confiance en l'homme. Et finalement, c'est un peu aller à Jérusalem, c'est aussi se remettre un petit peu et mettre sa confiance en Dieu, leur Dieu, de dire je vais faire confiance à Dieu et je vais y aller. Et on voit dans différents endroits, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, cette idée de sortir de Babylone. Il y a dans Jérémie 51, un passage, Jérémie 51, 45, où il dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun se sauve loin de la colère ardente de l'Éternel », en parlant de Babylone. Et dans Apocalypse 18, 4, il est dit « Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. » Et en dernière note, avant de nous plonger dans Esdras, c'est l'idée que Esdras et Néhémie sont tous les deux des personnages qui avaient été éduqués et qui avaient des positions de rang dans l'Empire perse. Et quand ils écrivent, ils vont donner beaucoup de détails, un petit peu comme ils pourraient donner des rapports ou faire des lettres pour renvoyer au roi, un petit peu comme s'ils étaient des gouverneurs ou des ambassadeurs, et puis le roi dit bon bah va à Jérusalem et reconstruis le temple, et eux ils partent un peu en tant qu'envoyés, ambassadeurs ou gouverneurs. Néhémie et Esdras vont tous les deux être à différents moments gouverneurs de cette région sous le roi perse. Donc on voit qu'ils vont renvoyer des listes où ils disent « Bon, il y a telle famille qui sont venues, les chiffres, c'est pas 50 000 à peu près, c'est 46 732, et il y a telle famille, il y avait tel gars qui ont fait ça, et tel gars qui a fait ça, et des listes assez longues et qui sont un petit peu difficiles à lire, parce que finalement, c'est une page pleine de listes de noms, et ça nous semble un petit peu bizarre, mais c'est pour ça qu'il y a ces listes. » Parce qu'ils écrivaient au roi en disant voilà ce qu'on a fait, voilà qui a participé, voilà ce qui s'est passé, pour le côté administratif presque. Esdras donc nous parle de la reconstruction du temple. On pense que c'est écrit par Esdras lui-même. Il y a deux parties, une partie avec le retour avec Zorobabel, celui dont je vous parlais, puis une coupure, et ensuite la partie avec Esdras qui est actif. Pour faire très résumé, donc ce roi Cyrus dit à Zorobabel de retourner à Jérusalem avec le peuple. On peut lire si vous voulez. Esdras 1, verset 2. Il dit, voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où il s'est installé, le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. Donc il y a cet édit et le chapitre 2, c'est une liste des Israélites qui rentrent à Jérusalem. Et comme je vous disais, vous pouvez aller regarder, il y a des listes très précises. Les descendants des Paréoches, 2172, de Shephatia, 372, d'Arach, 775, 775, etc., etc. C'est vraiment très détaillé. Et donc, ils vont rentrer à Jérusalem et ils vont commencer tout de suite à reconstruire l'autel, puis le temple. Mais il va y avoir des choses qui s'y opposent, des difficultés, notamment les peuplades qui habitaient toujours autour de Jérusalem, qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues aux Israélites. Et il va y avoir une période assez longue, de presque 10 ans, où ils font rien, ils attendent, ils sont là, mais ils reconstruisent pas le temple. Et il y a deux prophètes, Agé et Zacharie, qu'on verra brièvement la semaine prochaine. Qui disent non, vous êtes venus pour reconstruire le temple, Dieu veut que vous bougiez là, donc finissez. Et ils vont finir le temple, la construction du temple. Et puis plus tard, ce Esdras va être envoyé par Artaxerxès et il va être nommé gouverneur de Juda. Et lui va amener un petit peu un réveil spirituel où il va, donc le peuple a reconstruit le temple, s'est réinstallé, mais finalement ils ne connaissent pas la loi, ils continuent à vivre pas dans les traditions et dans les lois et les coutumes juives. Et lui il va venir et va être obligé de leur dire non, ce que vous faites c'est pas bien, nous on a cette loi de Moïse, faut faire ci et ça et ça. Et il va essayer de réinstaurer les habitudes du peuple. Donc le premier personnage qui revient, c'est ce Zorobabel qu'on voit au chapitre 3, qui est accompagné, il y a différentes personnes qui sont aussi mentionnées, il y a un Josué. Ils reconstruisent l'autel, ils posent les fondations du temple et faut se mettre à leur place, c'est vraiment des choses difficiles à faire. Nous, on lit ça toujours, comme je vous disais, on lit ça comme une lettre à la poste. Ils ont reconstruit le temple, ils ont été. La distance, si vous regardez sur une carte et de vous dire, a priori, ils sont allés sans doute à pied, peut-être avec des ânes et des chevaux pour porter leurs choses, mais... De là où ils étaient à Babylone jusqu'à Jérusalem, je peux vous dire que ça se fait pas en 2 jours. Donc ils arrivent, ils sont dans un pays, finalement, aucun d'entre eux, a priori, n'a été, ils sont tous partis soit très jeunes, soit sont nés à Babylone après 70 ans, ils connaissent pas le territoire, connaissent pas l'endroit, savent pas trop, où ils sont. Il y a, comme je vous disais, il y a d'autres peuples qui sont installés, qui connaissent pas, et il faut recommencer l'agriculture, il faut construire les habitations, faut des fortifications, faut penser à comment on s'organise, où on habite. Il y a vraiment beaucoup de travail. On n'a pas tous les détails sur ces autres choses. Nous, ça se concentre vraiment sur le temple. Et encore une fois, c'est l'idée de ce temple, c'est vraiment un point focal pour le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que ce livre s'y attarde beaucoup. Les chapitres 3 à 6, c'est quasiment que des détails sur le temple, sur les différentes choses à faire, les différentes parties de ce qu'ils font pour reconstruire le temple. Et ça va être le point central pour un petit peu rallier le peuple et leur redonner une identité, encore une fois. C'est aussi, finalement, pour les Israélites, c'est le signe matériel de la présence de Dieu parmi eux. C'est leur Dieu est là avec nous. Et c'est après avoir le temple et cet ordre religieux que le peuple va pouvoir rétablir un peu le reste, la vie politique, sociale, même les rites de leur religion, de leur foi. Et donc le temple, c'est vraiment le centre. On regarde le temple et en même temps on voit les difficultés qui s'y opposent, et notamment les peuples qui sont alentour, qui se disent bon, c'est toujours vous vivez là, vous vivez quelque part. À l'époque, les échanges étaient peut-être moins fréquents aussi. Vous vivez quelque part depuis 70 ans, et puis un jour vous voyez arriver 50 000 personnes qui disent ça y est, on va s'installer là. Et c'est sûr que ça va poser des problèmes aussi. On le voit dans suffisamment de films ou de suffisamment de situations historiques du monde, que c'est le genre de choses qui posent des problèmes. Et donc ces peuples autour, dans le livre, on voit qu'au début, ils disent « Bon, ben, on va vous aider. Vous voulez construire un temple, ben, c'est pas grave, on loue le même Dieu. Donc nous aussi, on vient vous aider. » Et donc le peuple juif leur fait savoir que non, on va le faire nous à part. Donc là, ils se sentent un peu menacés et ils vont essayer de provoquer une réaction du roi de Perse en faisant envoyer des messages en disant bon ben les Juifs là ils veulent se révolter, ils veulent reconstruire leur truc et se rébeller contre le roi, l'empire. Et tout ça va amener un peu une peur dans le cœur des Israélites, et c'est pour ça qu'ils s'arrêtent. Et c'est intéressant, c'est le genre d'épisode où on a envie un petit peu d'en savoir plus. On aimerait bien avoir des détails, mais finalement on a que ça, parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 10 ou 15 ans, quoi. Ils sont partis de Babylone 50 000 avec cet édit qui disait bon, rentrez et reconstruisez votre temple. Puis eux, ils sont là, ils s'installent, et puis et aussi en se disant qu'ils ont sans doute tous de la famille et des amis juifs qui sont encore à Babylone. Je veux dire, pourquoi pas à ce moment-là, si vous n'êtes pas en train de reconstruire le temple, ben on rentre là-bas chez nous, quoi, un petit peu. Je me dis c'est un peu bizarre. On se demande ce qui leur passe par la tête à ce moment-là. Dieu parle par les prophètes, donc Agé et Zacharie, leur les secoue un peu. Et ils vont reprendre les travaux. On voit que ces oppositions, il y a un roi qui va suivre le premier, Cyrus le Grand, et ils vont essayer de refaire la même chose avec ce deuxième roi, de lui dire ils essaient de se rebeller, etc. Et ils vont encore le faire avec Artaxerxès, encore un autre roi. Donc il y a vraiment une opposition qui est constante à cette reconstruction. Et le roi Artaxerxès, notamment, va les conforter, va dire non, vous voulez. Même il leur dit que vous devez les aider, vous devez aider les Juifs à reconstruire le temple. Et quand ils finissent, ils redédient le temple à Dieu. C'est le chapitre 6. Et là, dans le livre, en fait, on a une coupure qui est de peut-être de 60 à 80 ans, en fait. Donc, il y a la reconstruction du temple, et puis on voit que ils finissent, ils dédient le temple. Et puis, ouais, la fin du chapitre, entre la fin du chapitre 6 et le début du chapitre 7, donc il y a vraiment une période très longue. Et on a l'entrée en scène de ce Esdras.
Combien de temps ?
70 ans ? Oui, à peu près, ça dépend, pareil, c'est un petit peu flou exactement les dates. Là, on voit que c'est parce qu'on sait à peu près par les noms des rois, à peu près des époques, quand on regarde. Mais après, là, par exemple, quand ça commence au chapitre 7, c'est... après cela, au cours du règne d'Artaxerxès, c'est un petit peu vague. On voit les questions de mois, et donc les historiens essaient de regarder, mais c'est environ 70 ans, on va dire. Et ce Esdras, donc c'est un scribe qui est versé dans la loi de Moïse, on le voit au début du chapitre 7. On voit toute sa généalogie jusqu'au grand prêtre. Et au verset 10 du chapitre 7, il dit « En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. » Et l'idée, c'est un petit peu donc qu'il revient pour réapprendre au peuple comment se comporter en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple Israël. En note, par rapport à ce que je vous disais, que ça prenait un petit peu de temps, on voit, il est parti de Babylone au verset 9. Le premier jour du premier mois, il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois. Donc c'était quand même un voyage qui prenait quelques mois. Et quand il va arriver, il va trouver le peuple vraiment dans le, on va dire dans le péché. Ils sont en train de commettre les mêmes péchés qui ont conduit Israël à l'exil avant toute cette période à Babylone. Donc presque 150 ans avant, ils avaient fait ce genre de choses, à savoir se mélanger avec les peuples alentour, mélanger les croyances. Ils louaient un peu les dieux des uns et des autres, de manière un peu, on va pas juger, on va accepter un peu tout le monde et on va tout mélanger. Et donc Esdras se lamente là-dessus, va prier Dieu de ramener le peuple à premièrement de pas les punir et puis de leur apprendre et de leur faire grâce et de leur apprendre ce qu'il attend d'eux. On va voir que le peuple réagit bien à cette demande. Quand il va leur expliquer que ce qu'ils font n'est pas bien, ils vont bien réagir et se repentir. Et on voit, enfin, la fin est un peu, là encore, une liste qui est un peu marrante, où il va faire une liste assez détaillée de tous les hommes qui avaient pris des femmes étrangères. Voilà, et donc ça continue après dans Néhémie. Les études, si vous lisez les commentaires sur ces livres, il y a des gens qui pensent que peut-être que 1 et 2 Chroniques, Esdras et peut-être Néhémie faisaient partie d'un ensemble complet, peut-être à un moment dans l'histoire juive. Il y a des débats suivant les livres que vous lisez sur ces choses-là. Il y en a qui pensent que c'était peut-être un ensemble complet et que c'est peut-être même cet auteur-là qui aurait établi, qui aurait un peu finalisé le canon juif qui est utilisé un petit peu après pour la traduction des Septante dont on a parlé, qui est un petit peu la base des écritures juives considérées comme les écritures sur lesquelles les Juifs basent leur foi, l'Ancien Testament. Et donc Néhémie et Esdras, il y a pas mal de choses qui se recoupent et c'est un petit peu une histoire qui est un peu continue. Esdras et Néhémie sont des contemporains et vont travailler ensemble. Et Néhémie, ce que je vous en disais, c'était que lui, il va être amené à venir plus avec la mission pour reconstruire la ville de Jérusalem, les murailles et les rues. Et on pourrait dire qu'Esdras, c'est un petit peu plus un penseur ou un peu quelqu'un, il a ce côté, il va prier Dieu, il va parler de la loi de Dieu, etc. Mais c'est un petit peu plus dans le théologique, on pourrait dire. Et Néhémie, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus un homme d'action. Et on va voir qu'il revient et il va faire reconstruire la muraille de Jérusalem en seulement 52 jours. Alors qu'il y a des oppositions, il y a même les peuples autour qui commencent à attaquer avec des armes pour essayer d'empêcher la reconstruction des murailles. Mais il est vraiment très, très concentré et très déterminé à faire ce pour quoi il a été envoyé. Et il va même, par exemple, faire pendant un moment qu'il travaille en équipe, mais que pendant qu'ils travaillent, ils tiennent une arme à la main s'ils peuvent, ou c'est vraiment ils sont sur le qui-vive en train de travailler et en même temps se défendre, et vraiment avec on sent un zèle de finir ce pourquoi il est venu dans le récit. Et Esdras et Néhémie, tous les deux sont des personnages remarquables et sur lesquels on peut faire des études de caractère pour en tirer des leçons, tout comme Esther après. Il y a plein de choses qu'on peut voir dans leur vie et dans leur manière de se comporter qui sont importantes ou remarquables, comme je disais. Néhémie, pour détailler, il était le chambellan du roi. C'était lui qui devait... c'est pas le chambellan, celui qui devait goûter les aliments pour vérifier qu'ils n'étaient pas empoisonnés. Et le roi, donc ce roi Artaxerxès, va voir qu'il est triste un jour, et le roi lui dit « Pourquoi t'es triste ?» Et il dit « Parce que ma ville est en lambeaux, en quelque sorte, et toujours tombe en lambeaux. » Et ça, c'est au chapitre 2 de Néhémie. Et le roi, donc Artaxerxès, va lui donner des lettres et va lui dire va et reconstruis ta ville avec mon aide et ma bénédiction en quelque sorte. Et donc ce Néhémie va revenir. Dans le livre de Néhémie, on voit un petit peu les détails de ce que je vous disais, comment ils se répartissent les tâches, comment ils s'organisent, comment ils font face aux oppositions, au chapitre 3 notamment. Ouais, ça continue au chapitre 4. Quand ils arrivent finalement, alors il y a différentes choses qui se passent, mais quand ils finissent de reconstruire la muraille pour fêter un petit peu la reconstruction et la fin de cette tâche, ils vont faire lire la loi de Moïse devant tout le peuple. Il y a tout le peuple qui se rassemble et ils vont lire la loi au chapitre 8. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël, et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. On voit ensuite qu'il y a un petit peu des détails sur qui était présent. Esdras était debout sur une plateforme pour qu'on l'entende. Il est dit au verset 8, « Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et suite à cette lecture, le peuple qui comprend ce qui était attendu d'eux dans la loi de Moïse va se repentir, va premièrement pleurer, dire « Mais on est complètement à côté de la plaque. » Et Esdras et Néhémie vont les encourager en leur disant « Non, vous ne saviez pas, maintenant vous savez, pleurez pas. » Et ça finit quand même en fête. Mais c'est un réveil. Et ils vont fêter ce qu'on appelle la fête des tentes. Et c'est un peu un... Ils vont ensuite poursuivre ce réveil spirituel avec un jeûne et ensuite une confession de leurs péchés. Et puis au chapitre 10, ils vont un petit peu tous prêter serment le peuple à dire on va obéir à la loi de Dieu, on va faire ce qui est demandé. Ça continue après avec des répartitions, un recensement sur les prêtres et les lévites. Il dédie la muraille. Après c'est un petit peu intéressant et un petit peu triste, mais on voit au chapitre 13 pour finir en fait le Néhémie donc qui était revenu et qui avait amené ce réveil, lui doit repartir à Babylone et quelques temps après. Il va s'apercevoir que le peuple s'est encore éloigné, a encore fait un peu ce qu'il voulait. Par exemple, ils ne donnent pas à manger aux prêtres qui doivent donc partir pour travailler, qui ne peuvent plus assurer le service. Ils reprennent des femmes et des épouses des peuples autour. Ils ne gardent pas le sabbat, etc. Donc c'est on va dire marrant. Un petit peu dans le sens où on a l'impression que c'est un peu la même chose que dans Esdras. J'ai cherché pour voir s'il y avait des choses pour savoir si c'est un peu les mêmes occurrences ou si c'est différents moments. Mais l'idée, c'est un petit peu que le peuple est finalement tellement éloigné, a été loin pendant si longtemps de leur tradition et de ces choses-là que c'est difficile pour eux de revenir et de revenir à ces choses-là et ça va être un travail un peu répétitif pour des gars comme Esdras et Néhémie qui doivent sans cesse rappeler la loi et dire non, ce que vous faites c'est pas bien, il faut vivre comme ça et comme ça. Et finalement, ce que je pensais c'est qu'on n'a pas trop de détails entre un petit peu la fin de ce qui se passe avec Néhémie et puis le temps de Jésus, mais finalement, on pourrait se dire que c'est un peu un miracle, mais que c'est assez incroyable quand on voit ce qui se passe dans Esdras et dans Néhémie, que le peuple puisse avoir une identité aussi forte en tant que peuple juif quand Jésus va arriver sur la scène et qu'on voit qu'ils ont une identité très forte. Et même dans les textes historiques qu'on a à côté sur les périodes, ce qu'on appelle la période intertestamentaire entre les deux testaments, qu'il y a des choses qui se passent, il y a ce qui s'appelle la révolte des Maccabées, qui est le peuple juif qui se soulève contre un des empereurs de l'empire qu'on appelle l'empire Séleucide, pour différentes raisons, et il y a vraiment une identité forte qui revient, et ces deux livres finalement nous laissent quand même aussi cette impression que c'est Dieu qui est fidèle envers ce peuple. Et qu'il avait promis un messie qui viendrait par ce peuple et qu'il va protéger ce peuple malgré leur propre comportement. Finalement, on a l'impression qu'eux, ils laisseraient tomber assez vite et que ils finissent quand même en tant que peuple avec une identité et en position pour accueillir le Messie et pour garder aussi l'Ancien Testament, les textes et les coutumes de l'Ancien Testament. Donc c'est des études, c'est des livres pas très longs qui se lisent assez vite et je vous encourage, si vous avez jamais lu, c'est vraiment ces deux personnages et cette histoire sont intéressantes. On va finir avec Esther et puis quelques petites notes sur la période entre les deux testaments, comme je vous disais. Esther, c'est une histoire dramatique qui se passe dans l'Empire perse, un petit peu à la même époque. Quand je vous avais dit la chronologie, c'est un petit peu pendant qu'ils sont en train de reconstruire à Jérusalem que se passent les choses avec Esther. Esther, son nom, en fait elle a deux noms, elle s'appelle Hadassah qui est son prénom juif, elle est la fille d'Abishai, et elle est de la tribu de Benjamin, et la tribu de Benjamin faisait partie du royaume du sud avant la déportation, et Esther veut dire étoile du matin, c'est-à-dire Vénus, ou pour peut-être des choses dont vous vous rappelez peut-être de cours d'histoire, Ishtar, il y avait une divinité qui s'appelait Ishtar dans les je crois que c'est chez les Égyptiens, et c'était cette idée de Vénus qu'on pouvait voir et qui ressemblait à une étoile. On ne sait pas par qui ce livre a été écrit, c'est anonyme. La personne qui a écrit était a priori un patriote juif qui avait une très bonne connaissance du royaume perse de l'époque, du fonctionnement, et qui avait sans doute une position importante parce qu'il va citer et mentionner des textes officiels du royaume en fait perse. Et pas mal de gens pensent qu'il s'agit peut-être du personnage qu'on va voir qui s'appelle Mardoché, qui est le cousin d'Esther. Et l'histoire, encore une fois en résumé, c'est que il y a donc cet empire avec le roi qui dans le livre est nommé comme étant Assuérus. On dit que c'est Xerxès I. Et donc ce roi, lors d'un banquet royal, demande à sa reine, qui s'appelle Vashti, de venir avec sa couronne un petit peu pour la montrer à ses amis, ses convives. Et elle refuse, et puis elle refuse autre chose après, et le roi va elle doit renoncer à sa position de reine, elle est destituée en quelque sorte, et cette fille juive Esther, qui avait été élevée par son cousin Mardoché, finit par être choisie comme la nouvelle reine. Et au début du livre, il y a ce Mardoché qui va déjouer un complot contre le roi en question, mais sans être récompensé, et ça va avoir son importance après. Ce Mardoché a une position d'importance, et il y a un autre personnage qui entre en scène dans l'histoire d'Esther, qui s'appelle Haman, et qui prend de l'importance sous ce roi, un petit peu comme un premier ministre, et qui veut être adoré et révéré par les autres à la cour, et ce Mardoché s'y oppose, et Haman donc va s'énerver un petit peu et va vouloir se venger, et par ruse il demande à obtenir de la part du roi un ordre de faire exécuter les Juifs dans le royaume. Et ce qu'il faut savoir à l'époque de ce royaume, c'est que la manière dont fonctionnait le royaume était que quand le roi avait prononcé un édit, même le roi n'avait pas le droit de revenir en arrière. C'était un petit peu comme, ça y est, il a écrit, c'est écrit sur une tablette, c'est fini. Donc c'est quelque chose de dramatique à ce moment-là. Aussi en se disant que ce royaume perse couvre presque tout le monde connu de l'époque et que c'était donc très possible que le peuple juif soit exterminé quasiment en entier de tous les endroits où il y avait des juifs, c'était quasiment tout sous le royaume. Donc en fait, il annonce une date où les gens pourront tuer tous les juifs et prendre ce qui appartient aux juifs pour eux. Et quand Mardoché l'apprend, il va demander à Esther et lui dit « Toi, tu peux aller voir le roi et peut-être l'amadouer et faire en sorte qu'il fasse quelque chose ou qu'il change quelque chose. » Elle demande 3 jours de jeûne et de prière de la part de Mardoché et des autres juifs dans la ville. Et elle prend ensuite l'initiative d'aller voir le roi, ce qui pour elle était un risque de vie ou de mort. Il fallait normalement seulement venir quand le roi avait demandé la personne à venir. Le roi l'accepte en lui tendant son sceptre. Et elle invite le roi et ce Haman à un banquet. Entre-temps, après qu'elle ait fait cette demande, Haman, lui, se frotte les mains et prépare déjà la potence pour Mardoché. On lit entre-temps que le roi est en train de lire les annales de la cour, et en train de lire un petit peu ce qui s'est passé, les annales, tout ce qui a été enregistré dans l'histoire récente de son territoire, et il s'aperçoit que Mardoché, qui avait déjoué un attentat contre lui, n'avait jamais vraiment été récompensé. Et il y a une scène un peu comique où le roi demande à Haman et dit « Qu'est-ce que je devrais donner à une personne comme ça ?» Et Haman se dit que le roi parle de lui. Et donc il va décrire des choses assez fastueuses, sans savoir qu'en fait le roi pense donner ces choses à Mardoché. On arrive au banquet, et en fait Esther, à ce moment-là, implore le roi en expliquant qu'elle est juive. Le roi n'était pas au courant, et elle dit « Moi je suis juif, si c'était dit, et si les gens font ce qui est demandé, moi je vais perdre la vie, et tous les gens que je connais toute ma famille vont tous perdre la vie. » Et le roi comprend alors la ruse de Haman. Dans l'histoire, en fait, il sort pour un petit peu réfléchir, pour prendre l'air, quand il s'aperçoit de la situation. Et quand il revient, il voit Haman qui est à côté d'Esther et pense qu'elle est peut-être en train de lui faire violence. Et donc, il utilise la potence que Haman avait préparée pour Mardoché pour faire exécuter Haman lui-même. Et tout ce qui était Haman revient à Mardoché. Et le roi, pour contourner son édit qui disait que les gens avaient le droit de tuer les juifs, va faire un autre décret disant que les juifs ont le droit de se défendre ce jour précis. Et donc les juifs vont se défendre et ne vont pas être exterminés. Et les juifs célèbrent encore ce jour, c'est ce qu'ils appellent la fête du Pourim. Et ils relisent le livre d'Esther pour se rappeler comment le peuple juif a survécu à cette époque-là. Et il y a quelques notes qui sont vraiment très intéressantes. On lit l'histoire et ça passe un petit peu pareil. C'est un petit peu une histoire.
C'est fou, pardon. Un décret qui pouvait quand même encore plus éviter que juste leur donner le droit de se défendre.
C'est pour avoir des
juste ou celui qui s'en prendra. Enfin, parce que tu as dit que personne ne pouvait revenir sur un décret, même pas le roi. Mais tu vois, dire que. Se dire qu'on s'est trompé, parce que du coup ça discrédite peut-être le roi lui-même, mais dire celui qui finalement s'en prendra à un juif, je sais pas. Parce que là, il y en a quand même du coup, on a dû mourir.
Ouais. Je sais pas.
Non, mais ça m'a traversé l'esprit quand tu dis.
Oui, non, mais. C'est. c'est l'histoire telle qu'on l'a. Après, j'ai pas étudié en détail le pourquoi et le comment de ce royaume-là, dans le fonctionnement qu'il avait. Je sais qu'il y avait, quand on lit les commentaires sur Esther, ils abordent cette question un petit peu en passant, mais je suis sûr qu'on peut aller lire des choses beaucoup plus détaillées sur le fonctionnement du royaume de Perse et le pourquoi de ces commentaires et de comment ça s'est déroulé. La première chose qui est intéressante à remarquer et qui peut parfois un petit peu sauter aux yeux, c'est l'idée que le nom de Dieu, le Dieu d'Israël, n'est pas mentionné du tout dans ce livre. Il n'est pas du tout question de Dieu. On se dit, mais pourquoi ? C'est un petit peu bizarre.
C'est le seul livre dans la
vie. Oui. Mmh. Alors, il y a différentes hypothèses. Il y en a certains qui pensent que celui qui écrivait voulait éviter que les Perses, plus tard, ne changent le nom du Dieu d'Israël en le nom d'une autre divinité, par exemple, ou qu'il y ait des changements à ce niveau-là et qu'il voulait éviter ça. Il y en a qui disent que ça montre aussi peut-être un petit peu l'absence visible et l'état dans lequel se retrouve le peuple d'Israël jusqu'à la venue de Jésus. Cette période un petit peu de silence de la part de Dieu où il n'y a pas vraiment de prophètes ou de choses. On voit dans l'Ancien Testament que ça s'arrête là et qu'on a une coupure de quelques centaines d'années. On n'en est pas sûr. Il y a des commentateurs qui disent qu'on peut trouver et même des commentateurs juifs qui disent qu'il y a, en regardant au niveau des acrostiches que je vous disais, si on prend les premières lettres des différents chapitres, qu'en fait il y a le nom de Dieu, le nom imprononçable de Dieu qui était Yahweh, ou qu'on peut aussi trouver El Shaddai, ou le mot Messie, ou Yeshua. En regardant un petit peu un peu de manière codée dans les lettres, il y en a certains qui sont pas si codés que ça, ce que je vous disais en acrostiche, c'est vraiment pas très compliqué, alors que les autres choses avec El Shaddai, Messie et Yeshua, c'est des choses un petit peu plus compliquées, mais là aussi il y a des choses que vous pouvez aller regarder. L'idée qui ressort, c'est que bien qu'il ne parle pas visiblement de Dieu, on voit quand même, par exemple, quand Esther dit il faut faire un jeûne et prier, que l'idée du Dieu d'Israël est présent et qu'il œuvre en coulisses pour préserver son peuple. Quand on le lit, c'est très visible sans être explicite, quoi. Un deuxième point qui est très intéressant et que je trouvais encore une fois fascinant, c'est de regarder entre ce Haman et ce Mardoché, leur petite rivalité. Et en fait, quand on regarde de qui ils descendent, il y a des choses un peu incroyable. Et donc ce Mardoché, il est descendant d'un certain Shimei, qui était de la maison de Kis. Et ce Kis, en fait, c'était le père du roi Saül. Et on avait regardé brièvement dans le livre des historiques avec 1 et 2 Samuel, l'histoire avec Saül et David. Et en fait, normalement, quand il y avait une passation de pouvoir un peu hostile à l'époque, pour s'assurer d'être tranquille, on éliminait toute la famille de l'opposant, celui qu'on avait remplacé. Et dans l'histoire, on voit que David ne va pas tuer les descendants de Saül pour se venger ou pour assurer sa place. Il refuse de faire ça. Et dans le cas de Shimei, c'est encore plus marqué, parce que ce Shimei, il y a deux passages dans 2 Samuel 16 et dans 2 Samuel 19, où ce Shimei vient carrément face à David l'insulter, et les aides et les assistants de David vont dire « Mais pourquoi tu fais pas ce que ferait tout roi normal de l'époque, je te l'élimine si tu veux. Et David dit non, non, c'est pas mon, la vengeance, c'est pas mon, mon, c'est pas mon travail, je laisse. Et finalement, on pourrait dire que Mardoché, c'est un petit peu le fruit de l'obéissance et de la grâce de David. S'il avait éliminé ce Shimei, ce Mardoché n'aurait pas été en vie. C'est assez intéressant. Et c'est marrant aussi de regarder ensuite Aman. Parce que ce Aman, il est dit qu'il était Agagite, c'est-à-dire qu'il était un descendant d'un certain Agag. Et quand on suit la lignée, Agag, en fait, c'était un roi qu'on appelle d'un peuple qui était les Amalécites. Et les Amalécites, c'était un peuple que Dieu avait ordonné à Saül d'exterminer. Et Saül n'avait pas obéi et avait épargné. Et Dieu, après cet épisode d'ailleurs, va enlever la royauté à Saül, va lui dire ben, « tu as encore désobéi, tu ne fais pas ma volonté, donc j'enlève la royauté sur tes épaules ». Ça a pris quelques années encore jusqu'à ce que David le remplace. Mais on pourrait dire que Aman est le fruit de la désobéissance de Saül, un petit peu. Si Saül avait fait ce que Dieu lui avait demandé, ce Aman n'aurait pas été là. Et c'est une idée qu'on retrouve dans la Bible, ces histoires de descendance. Et des fois, on voit les remarques sur les noms des lignées, etc. Et on se dit, bon, oui, ça passe. Mais il y a souvent l'idée que nos décisions aujourd'hui, nos comportements, notre obéissance ou pas à Dieu, peut être le fruit de choses qui vont avoir des conséquences parfois très loin dans le futur, pour nos descendants, peut-être dans notre vie, dans la suite de nos vies, peut-être dans plusieurs générations, etc., des choses pour lesquelles on ne peut pas mesurer la portée, nous, avec notre point de vue, mais où Dieu, lui, peut voir que si telle ou telle chose ne sont pas faites, il peut avoir des conséquences plus loin dans l'histoire. On connaît notamment, par exemple, l'histoire avec Ishmaël et Isaac et les conséquences que ça peut avoir encore aujourd'hui, qui sont a priori les pères des Isaac, c'est plutôt le peuple juif, et Ishmaël, c'est le père des peuples qui vont donner l'islam et les musulmans. C'est un thème qui revient, et donc c'est intéressant que ces deux personnages, Mardoché et Aman, finalement, leurs histoires se recoupent bien avant, et on a l'impression qu'ils sont la conséquence de choses plusieurs centaines d'années avant. C'est difficile à se mettre en tête. J'y pensais, et ça m'a marqué, parce que je vous disais que j'écoutais ces choses sur l'histoire, ces podcasts, et de voir, quand on prend l'histoire et qu'on regarde des événements peut-être géopolitiques, l'histoire, ce qui se passe aujourd'hui est le fruit de choses qui se sont passées, qui ont été des décisions et des comportements et des choses faites ou pas faites par certaines personnes qui ont décidé à un moment pour une raison ou pour une autre, et ça amène des fruits qui nous affectent maintenant aujourd'hui, et de se poser la question aussi, Dieu, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, peut-être en France? Et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence bientôt et peut-être plus loin dans la lignée de nos descendants, entre guillemets? Et on avait vu ça un petit peu avec mon oncle Mike, qui était venu nous enseigner en octobre à la montagne, et qui avait parlé de cette idée de génération et cette idée que Dieu, lui, peut voir ces générations et les conséquences qui se répercutent de génération en génération suivant les décisions que nous prenons aujourd'hui. Pour moi aussi, d'avoir une fille, tout d'un coup, les décisions que je prends aujourd'hui vont amener des conséquences dans sa vie, qui peuvent peut-être amener des conséquences dans la vie de ses enfants, etc., etc. Et c'est pas pour se faire peur et se dire « Oh là là, il faut que je fasse rien, parce que je vais peut-être faire un truc pas bien. » Mais c'est juste de se dire que quand je prends des décisions, et mes décisions de vie amènent des conséquences réelles pour des gens après moi. Pour finir, là, quelques remarques sur cette période donc entre les deux testaments. Je l'avais annoncé, hein. J'ai du retard parce que je me suis laissé aller un peu trop. Suite à cet empire médo-perse, on avait dit qu'il y a l'empire grec qui va succéder, avec Alexandre le Grand, qui va conquérir tout cet environnement et qui, puis après, va mourir de manière un peu surprenante. Il a 4 généraux qui vont se partager le royaume, Cassandre, Lysimaque et puis Ptolémée et Séleucos. C'est une division très compliquée avec ce qu'ils appellent la guerre des Diadoques. Il y a plein de généraux qui se battent et puis ça finit par un petit peu arriver à un équilibre avec ces 4. Mais il y a en gros deux empires, les Séleucides et les Ptolémées, qui sont les deux plus puissants. Et par exemple, les Ptolémées, c'est sous un de ces rois qui va demander ce qu'on appelle la traduction de la Septante à Alexandrie, à des sages juifs. Donc on a déjà parlé de lui. Et on a parlé la semaine dernière avec Daniel d'un certain Antiochus IV, qui est un empereur dans l'empire Séleucide et qui va venir combattre les Ptolémées au sud, qui sont en Égypte, et puis qui va, en passant à travers le pays d'Israël, la terre promise, va commettre des atrocités en Israël. Il va, par exemple, piller le temple, il va le profaner, il va rendre la lecture de la Torah illégale, sous peine de mort. Il va faire sacrifier des porcs, par exemple, dans le temple, et ériger une statue de Zeus à la place de l'autel, dans le Saint des Saints. Et dans le livre de Daniel, il est question de l'abomination de la désolation, et c'est un petit peu une première occurrence de cette chose que Jésus, plus tard, va annoncer comme devant encore venir, mais ça arrive sous cet Antiochus IV qui se fait surnommer Épiphanès, qui veut dire l'illustre. L'illustre, et les Juifs avaient changé ça en Épimanès, qui voulait dire le fou. Et c'est à ce moment-là qu'il y a cette révolte des Maccabées, qui va durer quelques années et qui va rejeter la domination de cet empire. Et ils vont redédier le temple. En 165 avant Jésus-Christ. Et comme je le note juste parce que j'en avais parlé avec Daniel. L'Empire romain va commencer à arriver et ça va donner le contexte historique pour l'arrivée de Jésus, avec différentes étapes, les Romains qui prennent de l'importance avant de vraiment devenir un empire en 31 avant Jésus-Christ, donc pas longtemps avant l'arrivée de Jésus-Christ, alors qu'ils étaient une république avant. Ils vont demander le recensement de l'Empire qu'on voit au début de la vie de Jésus. Et c'est très intéressant, et je note ça en dernière note, parce que c'était quelque chose que je connaissais pas et que je trouvais formidable, et peut-être une note qu'on pourra peut-être ressasser quand on abordera la vie de Jésus. Mais c'est l'idée que en l'an 7 après Jésus-Christ, Rome va enlever tout pouvoir légal au Sanhédrin, qui était un petit peu le conseil des sages du peuple d'Israël à Jérusalem. Et donc, en quelque sorte, Rome leur enlève complètement toute domination, toute forme de pouvoir légal. Ils étaient vraiment juste religieux, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils n'avaient pas de pouvoir. Et il y a une prophétie dans Genèse 49, 10, qui dit, le verset dit, parlant de Judas, « Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Et donc en fait, il s'agit d'une prophétie parlant le Shiloh. C'est le Messie, c'est celui qui amène la paix. Et à cette époque-là, l'an 7, donc Jésus est vivant en tant qu'enfant, et les prêtres vont se lamenter en disant que le sceptre et le pouvoir sont enlevés de Judas, mais que le Messie n'est pas arrivé, parce qu'ils ne voyaient pas le Messie présent. Et de se dire qu'à cette même époque, Jésus finalement est vivant et présent, c'est encore une fois incroyable, les prophéties et les recoupements. Voilà, c'est tout pour ce soir.